Radio Okapi.
La coalition des armées congolaises et ougandaises annonce avoir détruit 4 bastions des rebelles ADF dans la localité de Kulungu, territoire de Mambasa en Ituri. Selon les autorités locales, plusieurs combattants ont été tués lors de ces opérations menées il y a 3 jours. Au Nord Kivu, la prison de Kangbaï, de Beni, fait face à une surpopulation alarmante. Selon le réseau pour les droits de l'homme Redo, plus de 2000 détenus sont incarcérés dans un établissement conçu pour seulement 250 personnes. L'organisation tire la sonnette d'alarme. Dans ce journal, nous recevons le professeur Joël Ngoï Nsisho, économiste et expert en commerce international. Il analyse les conséquences économiques que pourra avoir pour l'Afrique et pour la RDC la guerre au Moyen-Orient opposant les États-Unis et Israël à l'Iran. Bonsoir à tous. À Ituri, la coalition des forces armées congolaises et ougandaises affirme avoir détruit 4 bastions des rebelles des ADF et tué plusieurs de leurs éléments dans la localité de Kulungu, territoire de Mambasa. Selon l'administrateur adjoint de ces territoires, c'était au cours des opérations militaires menées par ces deux armées il y a 3 jours dans cette entité. Objectif, réduire les capacités de nuisance de ces rebelles. Des acteurs sociaux et politiques dans la région encouragent les deux forces à poursuivre ces opérations afin de permettre à la population d'avoir accès à ces champs. Radio Okapi Bunia, Martial Kizabiamongo.
Ces opérations militaires se sont déroulées du 5 au 8 mars dernier dans la région de Mungbere, précisément Ekulungu, dans les territoires de Mambasa. Selon l'administrateur militaire adjoint des territoires, le FRDC et les UPDF ont détruit 4 bastions de ces rebelles, dont la plus grande qui porte le nom de Mungusu. Ici, plusieurs éléments des ADF ont été tués dans le bombardement, dont 4 de leurs officiers. Parmi les victimes, le médecin soignant du chef de guerre des ADF, Moussa Balou. Un dépôt des vivres de ces rebelles a également été récupéré par les forces coalisées ainsi qu'une vidéo caméra. Au cours de ces opérations, 10 otages ont été libérés de mains de leurs ravisseurs. Il y a environ 2 semaines, le chef d'état-major adjoint de FRDC chargé des opérations et renseignements s'est rendu sur place à Mambasa pour redynamiser les opérations conjointes au Soudja entre le FRDC et le UPDF dans cette région. Bunia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps à Isangi dans la Tchopo, la sécurité reste fragile et les assiettes se vident. Entre les incursions armées et l'enclavement agricole, le territoire est sous pression. C'est ce qu'a révélé l'administrateur du territoire ad intérim à l'attention d'une délégation d'Enabel, l'agence belge de coopération internationale, lors d'une mission récemment dans cette entité. Le point avec Jacques Mkonkole.
Le tableau sécuritaire s'assombrit. Après le meurtre de 4 agents de santé fin 2025, la violence a encore frappé en ce début d'année. 3 civils tués, une femme dans sa chambre, ainsi qu'un opérateur économique et son conducteur de taxi à 5 km de Yangambi. Un blessé grave a été également enregistré. L'administrateur du territoire, Toussaint Lolokeke, qui confirme l'arrestation de 32 suspects, exige une justice exemplaire.
Je n'avais jamais vu ça. Le territoire d'Isangi est toujours considéré comme un oasis de paix. On attend la justice faire son travail.
À ce deuil s'ajoute la faim. Paradoxalement, les produits pourrissent dans les champs. En cause, le délabrement total des routes de dessertes agricoles qui isolent les centres de consommation. L'administrateur de territoire adjoint tire la sonnette d'alarme.
Les transports pour faire parvenir ces marchandises aux marchés locaux ici coûtent cher parce qu'un taximen va vous demander 10 000, 20 000, 30 000 suite au mauvais état de la route. Dans d'autres coins, il y a des denrées alimentaires qui périssent dans des villages et dans la brousse.
Afin de pallier cet état des choses, la TEA plaide pour la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, tire la sonnette d'alarme sur les violences sexuelles liées au conflit ici en RDC. Au-delà des chiffres alarmants collectés en 2025, le BCNUDH alerte dans un communiqué sur l'utilisation systématique du viol comme arme de guerre et l'émergence d'une génération d'enfants victimes de la stigmatisation. Le BCNUDH martèle que la lutte contre l'impunité ne peut plus attendre et appelle instamment les autorités nationales à accélérer les poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes graves et à garantir l'enregistrement systématique à l'état civil de tous les enfants nés du viol pour briser le cycle de l'exclusion. Le BCNUDH appelle les groupes armés à cesser immédiatement les hostilités, à libérer sans condition toutes les femmes et filles maintenues en captivité et à mettre fin à l'esclavage sexuel. D'autres détails avec Alain Rongmouchinge.
En 2025, le BCNUDH a documenté 887 cas de violences sexuelles ayant affecté 1534 victimes, dont une majorité écrasante de femmes, 854, et de filles, 672. L'est du pays demeure l'épicentre de cette tragédie, le Nord Kivu et le Sud Kivu concentrant à eux seuls près de 80% des victimes documentées. Les groupes armés sont responsables de 75% des victimes, avec le mouvement du 23 mars, M23 en tête, suivi des groupes Wazalendo, de la coopérative de développement du Congo Codeco, divers groupes Mai Mai, des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et des forces démocratiques alliées ADF. Le BCNUDH note également avec préoccupation que les acteurs étatiques, FARDC, Police nationale congolaise et Agence nationale de renseignement, sont impliqués dans 19% des cas documentés. Le rapport met en lumière des crimes atroces dont l'esclavage sexuel. Des femmes et filles sont maintenues en captivité prolongée, soumises à des viols répétés et des grossesses forcées. Les enfants nés de la violence sous contrainte font face à un régime familial, une absence d'état civil et un risque permanent de recrutement par les groupes armés.
Nous l'avons dit au sommaire, au Nord Kivu, la prison urbaine de Kangbay à Beni fait face à une surpopulation alarmante et à des conditions de détention jugées préoccupantes. Dans un rapport de monitoring publié le 7 mars, le réseau pour les droits de l'homme REDO, une organisation basée dans la région, indique que plus de 2000 détenus sont incarcérés dans cette prison construite pour en accueillir 250. L'organisation dénonce également les décès en détention, le manque de nourriture et des médicaments, ainsi que la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires. Martial Papi Mukeba nous appelle de Beni.
Selon ces rapports, la prison urbaine de Kangwaï de Beni comptait au 6 mars 2026 2032 détenus, dont 91 femmes accompagnées de 14 nourrissons. Parmi eux, 344 seulement sont condamnés, les autres sont en détention préventive. Nombre d'entre eux sont poursuivis par la justice militaire de Beni et de Butembo. Mohindo Wasivinwa, coordonnateur du Rideau, dresse un tableau alarmant des conditions de détention dans cette maison carcérale.
12 mois sans appui du gouvernement central, la pharmacie comme le dispensaire de cette maison pénitentiaire n'est pas approvisionné à médicaments et intrants. Plus de 202 détenus souffrent de la malnutrition. Du 1er janvier au 6 mars 2026, 16 détenus sont décédés.
Face à cette situation, les rideaux appellent le gouvernement à rétablir les subventions, à approvisionner la prison en médicaments et à accélérer les traitements des dossiers judiciaires en fait de désengorger cet établissement pénitentiaire. Nous n'avons pas obtenu des réactions des responsables pénitentiaires ni des autorités judiciaires de Beni. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur la radio de la paix. À l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, la journée porte ouverte organisée la semaine dernière, par la Commission économique, financière et contrôle budgétaire, ECOFIN, a servi de tribune à la population de Mbujimayi pour faire entendre ses préoccupations. De nombreux citoyens ont profité de cette rencontre pour transmettre directement leurs doléances aux députés provinciaux. Les échanges ont porté sur des problèmes sociaux et communautaires jugés prioritaires par les habitants. Des explications avec Esther Dalafina.
Jean Chumbe Windo est parmi les personnes qui ont soumis les problèmes de leur milieu respectif.
On a parlé sur la situation qui se passe actuellement au quartier Tubondo et aussi une grande partie de la commune de Bipemba, côté Moulambampoy, où nous avons des creusers artisanaux qui exploitent le diamant illégalement de ces côtés, jusqu'à exploiter dans deux parcelles des gens.
Alexis Médard Bouloba, jeune entrepreneur, a fait un vœu pour permettre à la province d'obtenir les moyens de sa politique.
Il y a certains d'axes certaines redevances, certains impôts qui ont un barème plus élevé qu'il faut rabattre à un taux aussi raisonnable. Nous lui avons proposé l'IREL qu'on peut rabattre de 15 à 5%. Nous lui avons aussi soumis l'audience de l'importation de la main d'œuvre.
La réponse du député provincial Franck Kazadi ne s'est pas fait attendre.
Le premier pilier que nous allons utiliser, c'est le contrôle sévère de l'exécutif provincial. Nous allons aussi sensibiliser davantage la population sur les services fiscaux, parce que si la population ne paye pas, rien ne sera fait. Nous allons aussi sensibiliser la population pour son implication totale dans la gouvernance locale et la lutte contre les antivols. Nous avons aussi notre part de responsabilité.
Signalons que cette initiative remblaye le fossé qui s'était creusé entre les députés provinciaux et la population. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Par ailleurs, les territoires de Calais au sud Kivu et plus particulièrement le groupement des Mbinga Nord traversent une crise alimentaire sans précédent dans cette région autrefois considérée comme le grenier agricole du sud Kivu. Les pluies diluviennes qui s'abattent abondamment sur la zone détruisent les cultures dans les champs et rendent impraticable la route nationale numéro 2 reliant la ville de Bukavu au territoire de Calais. Conséquence, les prix des produits de première nécessité flambent, aggravant la situation des ménages déjà fragilisés par les conflits persistants dans l'est du pays. Benjamin Mungazi, président de la nouvelle société civile territoriale de Calais, insiste sur la gravité de cette crise. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Jean Kassami.
Une crise économique s'observe dans le territoire de Calais et dans la province du Sud Kivu. Et dont la vie de la population se détériore du jour le jour dans le groupement de Mbinga Nord, et plus particulièrement dans le village de Mukwija, Muganzo, Kalangala, Makengera, Nyabibwe et Kanenge, suite à la pluie qui est en train de pleuvoir chaque jour et qui cause des risques de dégâts chez la population dans des champs, même dans la route numéro 2 comme Bukavu. Plusieurs populations déménagent ou abandonnent leurs maisons sans consentement. Les produits agricoles emportés par des éboulements de terre et ça cause une prix non abordable telle que une mesure de farine de manioc qui est à 500 francs congolais se vend à 1500 francs congolais. Le problème en est que cette population est dans une situation critique suite au manque d'argent, mais aussi la famine dans plusieurs ménages. La nouvelle société civile alerte et demande aux autorités compétentes du gouvernement, aux personnes de bonne volonté, aux ONG, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales telles que PAM, FAO, Croix-Rouge, Fonds Social, Acte, Décartes, et tous de venir en aide de la population du territoire de Calais.
Après celui qui vous le savez, nous sommes en plein mois du Ramadan. La province du Maniema est considérée comme le berceau de l'islam en République démocratique du Congo. Pour certains commerçants, cette période constitue une véritable opportunité d'affaires. Les jeûnes quotidiens imposent aux fidèles musulmans de rompre leur abstinence le soir, généralement avec un repas léger. Dans ce contexte, les vendeurs et vendeuses des produits de première nécessité profitent de la hausse de la demande. Florence Kizalonga s'est rendue dans les marchés de Kindu et nous propose ce reportage.
Parmi les produits les plus recherchés figurent le banane planté, les maniocs et les patates douces, les arachides ainsi que les farines de maïs, de blé et de soja, sans oublier les sucres. C'est ce que confirme Chalou Fatantine, vendeuse au marché.
Nous vendons tout ce qui permet aux musulmans de rompre leur jeûne, comme sucre, soja, farine de maïs. Les mois de Ramadan, c'est pour nous un mois d'affaires. Il y a des changements par rapport à ma façon de vendre. Mais nous constatons que l'argent ne circule pas vraiment par ce qu'on voit, que plusieurs musulmans se font des dons, mais les autres achètent petit à petit.
Vu les vides. De son côté, Bijou Nyota, qui vend du manioc et des bananes devant la mosquée centrale, confirme cette tendance.
Nous sommes au mois de Ramadan, les femmes musulmanes achètent des bananes, manioc et bananes plantées.
À noter que, malgré la forte demande, les prix restent stable. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans l'actualité, sache aussi que la commission interministérielle chargée de l'expropriation dans le cadre du projet des rocades de Kinshasa a entamé samedi une campagne de sensibilisation auprès des habitants de l'avenue Njoku dans la commune de Kimbanseke. À travers cette activité, elle vise à confirmer le passage de la route menant à l'aéroport international de Njili via l'avenue Njoku, à présenter aussi la procédure d'expropriation et à rappeler les préalables nécessaires à toute négociation avec la commission. C'est ce qui nous dit Blaise Ndongala Mayanda.
Coordonnée par le secrétaire général aux infrastructures, cette commission interministérielle a annoncé au cours de ses séances de sensibilisation les démarrages du processus de démolition pour les personnes déjà indemnisées. Elle a également rassuré celles affectées par les projets qui n'ont pas encore perçu leur indemnisation. Les membres de cette structure ont rappelé l'importance de finaliser ces projets d'ici fin 2027, ce qui impose d'accélérer la libération de l'emprise routière sur l'avenue Njoku, un axe stratégique qui marque la sortie de la rocade vers l'aéroport international de Njili. Ce dimanche, une deuxième séance de sensibilisation a eu lieu à l'église Bossois, au PK42, à environ 300 mètres de la sortie de l'avenue Njoku, après celle organisée la veille à l'église Bisengo Mwambe, située au PK33 du projet. De leur côté, les riverains de l'avenue Njoku ont salué l'initiative et ont affirmé être prêts à collaborer. Lancé en juin 2024, le projet de rocade de Kinshasa vise à construire une voie circulaire autour de la ville de Kinshasa.
Actualité internationale.
À compter du 26 mars 2026, le Royaume-Uni va suspendre la délivrance des visas étudiants aux ressortissants de plusieurs pays dont l'Afghanistan, le Myanmar, Birmanie, le Soudan ainsi que le Cameroun. Cette décision, motivée par une forte augmentation des demandes d'asile, émane du ministère britannique de l'Intérieur et vise à limiter le détournement des visas d'études, une mesure qui a choqué de nombreux étudiants à Yaoundé.
L'invité.
C'est le professeur Joël Ngoyi Nshiso, économiste et expert en commerce international. Il s'exprime sur les conséquences économiques que pourrait avoir pour l'Afrique en général et pour la République démocratique du Congo en particulier, la guerre au Moyen-Orient menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Le professeur Joël Ngoyi Nshiso s'entretient avec Alain Irong Mouchinge.
Professeur Ngoyi Joël Nshiso, bonjour.
Bonjour cher Alain Irong.
La guerre au Moyen-Orient commence déjà à avoir des répercussions sur le plan du commerce international. De manière générale, d'abord, qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de conséquences économiques?
De manière générale, cette guerre produit déjà trois catégories de conséquences. Premièrement, il y a une conséquence géopolitique. On assiste à une extension du conflit Moyen-Orient, avec un risque élevé de régionalisation. Cela fragilise davantage la sécurité du Golfe, des routes maritimes et des équilibres diplomatiques entre grandes puissances. Deuxièmement, il y a une conséquence énergétique et commerciale. Le point névralgique, c'est le détroit d'Ormuz par lequel transite environ 20% de barils par jour, soit près de 25% du commerce mondial maritime du pétrole. Troisièmement, il y a une conséquence macroéconomique mondiale. Hausse potentielle du prix de l'énergie, tensions inflationnistes, perturbations des chaînes d'approvisionnement, ralentissement de la croissance et nervosité de marché.
Parlons à présent de l'Afrique en général et de la RDC en particulier. On sait qu'il y a un grand flux commercial entre Dubaï et Kinshasa et il y a des bombes qui tombent sur Dubaï, à l'aéroport notamment, et cela va poser problème, professeur.
Pour l'Afrique, le principal risque est celui d'un choc importé. Beaucoup de pays africains restent vulnérables aux hausses internationales du prix du carburant, du fret et de certains intrants industriels. L'expérience du choc Russie-Ukraine l'a montré. Quand l'énergie monte, l'inflation suit et en Afrique, le passage des prix mondiaux vers le prix intérieur peut être important, notamment dans les pays à faible revenu. Pour la RDC, l'axe Dubaï-Kinshasa a une importance pratique réelle, surtout pour le petit commerce international, les commerces de détail, les importateurs privés et l'approvisionnement en biens manufacturés. Dès que les vols sont suspendus, détournés, il y a un effet immédiat sur la route de marchandises, sur la trésorerie des opérateurs et sur les délais de livraison. Les récentes perturbations régionales ont déjà fortement touché les liaisons aériennes vers Dubaï et l'espace aérien du Golfe. Même sans chiffrage officiel immédiat, on peut identifier quatre manques à gagner. D'abord, un manque à gagner pour les commerçants congolais, parce que les stocks n'arrivent pas à temps, les commandes sont retardées et certains contrats sont perdus. Ensuite, un manque à gagner pour le secteur du transport, de la distribution et de la logistique, car toute la chaîne est ralentie. Troisièmement, un manque à gagner pour l'État congolais à travers la baisse temporaire de recettes liées aux droits de douane, à la TVA, sur certains produits importés et à l'activité commerciale formelle. Enfin, il y a un coût invisible, mais très important. La désorganisation du cycle commercial. Un commerçant qui fait habituellement plusieurs rotations par mois peut perdre son calendrier d'approvisionnement, sa clientèle, voire sa solvabilité.
Pour terminer, quels conseils pourriez-vous donner au gouvernement congolais et au secteur privé pour qu'à la prochaine, ils puissent mieux s'y prendre et faire face à ce genre de situation ?
Au gouvernement congolais d'abord, il faut mettre en place une véritable stratégie nationale de résilience aux chocs extérieurs. Cela passe par des mécanismes de veille géo-économique, des scénarios de crise sur les carburants, les transports et les importations critiques, ainsi qu'une meilleure coordination entre les ministères de l'économie, du commerce extérieur, des transports et des finances. Au secteur privé, je recommande de professionnaliser davantage la gestion des risques, assurance, transport, diversification des fournisseurs, contrats logistiques plus robustes, constitution des stocks tampons et recours plus fréquents à l'intelligence économique.
Professeur Ngoï-Joël Chisso, je vous remercie.
19h20 à Kayuyu, dans la province du Maniema. Ainsi prend fin ce journal, mis en onde par Alain Goy et supervisé par Alain Irung Mouchinge. À la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Merci.